Merci Jean-Marie pour cette introduction. Je vais essayer de m'expliquer en français. Je ne suis pas francophone, je suis néerlandophone ou flamand, comme vous dites. Je peux m'expliquer en flamand, mais ce sera un peu difficile. Donc, je vais essayer en français, voilà. Voilà, je vais vous parler de la microscopie électronique. Je présume que vous connaissez la microscopie optique. En fait, je vais vous dire que la microscopie électronique, c'est exactement la même chose, à certains points près. Parce qu'on va caractériser des matériaux, comme des nanomatériaux, comme dont Jean-Marie a parlé, à une échelle atomique cette fois-ci. Mais avant que je commence, je peux vous dire un tout petit peu, du côté politique, je dirais, c'est la Belgique. La France se trouve ici, Paris, c'est quelque part là. Alors, vous avez la Belgique, mais vous savez que la Belgique, il y a la Flandre, il y a la Wallonie, il y a Bruxelles. Voilà, Anvers se trouve là-bas, dans le côté flamand. Anvers, c'est quoi? C'est connu pour, je dirais, trois choses. Il y a d'abord, il y a le port, qui est, je crois, le deuxième port en Europe. Alors, aussi, Jean-Marie a beaucoup parlé des diamants. Eh ben, à Anvers, on ne trouve pas de diamants là-bas, mais on fait le polissage de diamants à Anvers. C'est toujours le centre mondial du diamant. Et en plus, il y a ce monsieur-là qui est connu dans le monde entier, je crois. C'est qui, Jean-Marie? Comment? Non, c'est Rubens. C'est quand même connu, Rubens. Écoute, même en France, je crois. Bon, d'abord, ça, c'est Anvers. Et là, on a le labo. On a le labo qui a un centre de microscopie qui s'appelle EMAT, qui c'est Electron Microscopie Électronique des Matériaux, Sciences des Matériaux. Et tous les microscopes se trouvent dans ce bâtiment qui a plus ou moins quelque chose comme 30 sur 30 mètres, un labo. Et pour un labo, il faut des matériaux, bien sûr, mais il faut des microscopes, il faut des chercheurs. Alors, des chercheurs, ça a grandi énormément. On était 25 il y a 10 ans. Maintenant, on a plus ou moins 60. Il y a 9 que j'appelle des chercheurs établis. Il y a une quinzaine de post-docs et plus de 30 étudiants qui font une thèse. Ils font tous une thèse en microscopie électronique, mais sur différents matériaux et sur différentes techniques de la microscopie. Je vais vous expliquer plus tard. Alors, il y a une dizaine d'administratifs et techniciens. On a, en ce qui appelle équipement, il y a deux microscopes MEB, microscope de balayage, il y a un FIB, il y a deux rayons X, il y a six microscopes en transmission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec tous ces microscopes-là, il y a le microscope à balayage. Je suis désolé que les transparents sont en anglais, mais je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème, je crois. Il y a un microscope, un vieux microscope Géol en MEB. Il y a un nouveau microscope en balayage, mais qui est en environmental SEM, c'est-à-dire on peut y mettre des matières, je ne dirais pas à pression ambiante, mais quand même avec une pression qui est non négligeable. Alors, en thème microscopie, on a des microscopes conventionnels, comme le Philips CM20, l'Osiris, qui est un peu plus avancé, le Géol 3000, le Tegnaï, mais surtout, il y a deux microscopes qui sont, et je vais en parler plus tard, qui ont une résolution à l'échelle atomique, résolution de l'ordre de 1 angstrom, mais qui sont corrigés, les lentilles sont corrigées. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire. Alors, pour vous faire un peu d'histoire, l'histoire de la microscopie électronique, ça commence dans les années 30. Il y a Ruska, qui a eu le prix Nobel en 86, et Max Knoll, qui ont construit leur premier microscope. Et l'idée était la suivante, parce que Ruska, elle avait un frère qui était biologiste, et qui dit, écoute, moi je suis toujours limité par la résolution d'un microscope optique. Un microscope optique qui a une résolution de l'ordre de 0,5 micron, plus ou moins. Mais il voudrait voir des détails plus fins. Alors, la raison pourquoi le microscope optique est limité à 0,5 micron, c'est la longueur d'onde. Les ondes de la lumière, c'est de l'ordre du rouge au violet, entre 400 et 700 nanomètres. Alors, en général, on ne peut pas avoir une résolution qui est moins la longueur d'onde, plus ou moins. Alors, on est limité, plus ou moins, à 0,5 micron. Alors, si on veut voir des détails plus fins, il faut réduire la longueur d'onde. Et on peut faire ça en utilisant des électrons. Des électrons qui sont accélérés. Et dans le premier cas, ils étaient accélérés à 80 kV. Ce qui fait que on a tout d'un coup, on a une longueur d'onde de l'ordre des picomètres. Mais alors, la résolution, bien sûr, n'était pas de l'ordre du picomètre, parce qu'on avait des vibrations, on a toutes sortes, les lentilles n'étaient pas parfaites. Pourquoi ? Mais alors, ça commençait dans cette période-là. Alors, 31, vous savez que la guerre mondiale était en 40-45, il n'y avait pas trop d'activité. En plus, c'était en Allemagne, sous le système nazi et tout ça. Mais c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que vraiment la microscopie électronique s'est avancée très, très fort. Alors, je dirais dans les années 90, c'est un microscope chez nous, on avait des microscopes conventionnels. Un microscope, en fait, c'est la même chose qu'un microscope optique. On a ici, au lieu d'avoir de la lumière, on a des électrons accélérés. Là, vous avez des lentilles pour faire un faisceau très parallèle. Comment on fait dans un microscope optique ? Alors, votre échantillon se trouve ici, et après, vous avez des lentilles pour agrandir. Et là, vous voyez sur l'écran l'image directe. Agrandie jusqu'à ce que, parce qu'ici, il y a 3 ou 4 ou même 5 lentilles, jusqu'à une magnification de 1 million de fois. Maintenant, la magnification n'est pas tellement importante, parce que vous savez, bien sûr, si vous avez un journal et vous agrandissez la photo dans le journal, vous ne voyez pas plus. Même chose pour votre ordinateur, à la fin, vous voyez des pixels. Alors, l'agrandissement n'est pas important, c'est en fait la qualité de ces lentilles qui détermine votre résolution ici et votre agrandissement. Alors, ça, c'est une photo des années 90, ça, c'est une photo, je dirais, 2006, un microscope un peu plus avancé, un peu plus moderne, mais ça reste un microscope, on a du contact avec. Maintenant, après ça, on a eu des microscopes comme celle-là. C'est plutôt une boîte, un frigo américain, je dirais, qu'il faut nourrir de temps en temps avec de l'azote pour refroidir l'échantillon, mais qui est un peu spécial. En fait, le microscope se trouve dedans, mais on essaye d'améliorer la résolution, et ça se fait en isolant le microscope du reste du monde. Alors, vous avez le microscope ici dedans, qui est complètement isolé de ce couvert. En fait, il se trouve dans un autre bâtiment, comme ici la chambre ici, et on est à l'extérieur pour en fait régler et communiquer avec le microscope. Alors le microscope se trouve ici, de l'autre côté, et c'est le monsieur-là qui vraiment a une connexion. En fait, si vous avez une très bonne connexion ici entre Paris et Anvers, on pourrait manipuler le microscope à partir d'ici, sans problème. Alors là, vous êtes à l'extérieur, on a une stabilité énorme mécaniquement, aussi thermique, parce qu'on met l'échantillon dedans, et pour le reste, on n'entre plus la chambre. Ça veut dire qu'il y a un changement de température de 0,5 degrés par heure. Parce qu'autrement, si vous entrez là-dedans, vous êtes à 37 degrés. Vous allez chauffer tout le bazar, et ça va faire que votre échantillon ne sera plus stable. Vous vous imaginez si vous travaillez à une magnification et vous mettrez comment ça s'appelle, un poil ? Un cheval ? Un cheveu ? Non, pas un cheval. Un cheveu ? Enfin, vous prenez un cheveu, la croissance, c'est l'ordre de 1 cm par mois. Eh bien, à la magnification où on regarde, ça veut dire 30 cm par seconde. Vous vous imaginez la stabilité qu'on exige pour ces instruments ? Alors, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de la résolution les derniers temps ? C'est parce qu'on a amélioré les lentilles. Parce que vous savez que même en optique, toutes les lentilles, elles ont des aberrations. Après, elles ont chromatique, sphérique et tout ça. C'est surtout la correction sphérique qui joue un rôle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous souvenez encore de votre cours d'optique ? Eh bien, s'il y a une aberration sphérique, vous avez une lentille et les rayons qui... qui sont à l'extérieur, et les rayons qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas la même focalisation. Alors ici, il y a un disque de confusion qui s'est créé. si vous faites la correction, voilà, vous allez corriger votre aberration et ça fait que vous avez une résolution beaucoup meilleure et c'est ponctuel plutôt que là, vous avez un disque de confusion. Et c'est ça qu'on a créé pour les lentilles dans le microscope. Ce n'est pas évident, pas du tout. C'est pour ça que ça, le premier expériment était dans les années 2000, c'est à partir de l'ordre de 2005-2006, ça s'est devenu plutôt normal, je dirais. Le désavantage, c'est que ces microscopes coûtent beaucoup plus cher. Un microscope, comme je vous ai montré avant, par exemple, ce microscope-là, il a coûté 7 millions d'euros. Alors, vous vous imaginez que ça ne se met pas à chaque coin de la rue. Alors, on fait. Par exemple, je vais vous donner, voir l'effet de la correction. Si vous avez le correcteur off, vous avez une image comme celle-là. Ça, c'est de l'or, un nanoparticule d'or. Et ce que vous voyez ici, c'est les points, les atomes d'or, mais en projection. N'oubliez jamais, ce que vous voyez en microscope électronique, c'est une projection de la réalité. En plus, c'est une projection qui est modifiée par votre microscope. C'est comme vous regardez à l'extérieur d'une fenêtre, une fenêtre qui est un peu détordue. Alors, vous regardez de l'autre côté, et si vous restez à l'intérieur, vous n'avez aucune idée de la réalité. C'est la réalité modifiée par la fenêtre. Si vous avez des lunettes colorées, vous avez une réalité qui est transformée par vos lunettes. Alors, c'est une projection de la réalité transformée par le microscope. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous pouvez voir des colonnes d'atomes. Mais ici, autour, bien sûr, un arc de particules se trouve sur un support de carbone. Ça, c'est le support de carbone qui donne une image assez floue. Mais, par exemple, on a une bonne résolution ici, mais à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement à l'extérieur? Est-ce que ce truc-là est encore un atome ou pas? Eh bien, on met la correction en marche et voilà. Vous voyez? La résolution n'est pas tellement meilleure ici. Bon, un petit peu, mais quand même. Mais c'est surtout à l'extérieur, vous voyez très très bien que maintenant, il y a des facettes. Quelque chose que vous n'avez pas remarqué ici. Et ça, c'est l'avantage de mettre le correcteur. Vous voyez? Et c'est la plupart des choses qu'on va montrer sont avec le correcteur on. Ça, c'est une des choses qui se sont améliorées le dernier temps. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire la microscopie. Ou bien, on a un faisceau parallèle et on le met sur un échantillon et finalement, vous faites un exposé. Vous enregistrez la photo en une seconde, quoi. Voilà. L'autre façon, ça c'est par exemple cette image pareille, comme ça. Ce qui fait, ça c'est de l'or de nouveau, et vous voyez très très bien la projection des atomes. Et ici par exemple, et là vous voyez des fautes parce que rien n'est parfait, même si on pense que la structure est parfaite, comme M. Tarascon l'a bien expliqué, on a telle structure, mais on n'a pas parlé qu'il y a des fautes de temps en temps. En fait, la plupart de nos matériaux, c'est des matériaux défectueux. Et c'est assez souvent que ces défauts jouent un rôle très, très important. Alors, par exemple, ici, il y a des fautes, mais on a une image qui est très, très bonne, mais qui est très sensible à l'orientation. C'est un peu courbé, ce qui fait qu'ici, vous avez une très, très bonne image. Par contre, là, il faut savoir, la distance entre ces atomes, c'est de l'ordre de 2 angstroms. Hein. C'est 2 angstroms, 0,2 nanomètres. Alors, ici, vous avez une image qui est complètement un petit peu différente quand même de là. Là, où vous dites, oh, écoute, c'est très clair, c'est des points blancs, des points noirs, c'est des atomes. Mais ici, quoi? C'est différent parce que c'est un peu courbé. Alors, on a une autre technique. Il y a une autre technique qui est, on fait un faisceau focalisé. Ça existait depuis longtemps, mais avec les lentilles qui sont corrigées maintenant, on peut faire une focalisation de l'ordre de 1 angstrom. On se focalise atome par atome, tac, 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 on fait le tour comme ça. Et on enregistre atome par atome, mais ça prend plus de temps. Ça veut dire pour faire le tour de l'échantillon jusqu'ici et retour, etc., comme votre télévision en fait qui fait que ça, hein. C'est exactement la même chose. Et ça se peut, ça dépend du signal qu'on veut et de la qualité de la photo, ça se peut que ça prend entre, dirons, une seconde et plusieurs secondes, même plusieurs minutes. Alors, il faut une stabilité énorme. C'est pour ça qu'on a cette stabilité. Alors, comme détecteur, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir un détecteur du champ clair, bright field, mais aussi on peut avoir un détecteur du dark field, où on élimine le faisceau central, mais on repère, par exemple, ceux qui sont, ce que ça veut dire, high angle annular dark field, c'est-à-dire ceux qui sont en champ sombre, mais très très loin. L'avantage, c'est que, en faisant ça, par exemple, ici, ça c'est le détecteur en rouge, la pointe, l'échantillon, si on est très très loin de l'origine, ici, on a une image qui est directement reliée à la composition. Ça veut dire quelque chose qui est très très blanc, ça veut dire un haut numéro dans la tabelle de Mendeleïev. Qui est moins blanc, c'est le contraire. Alors, je vous ai expliqué ça sur un truc très simple qui est basé perovskite. On a une image en microscopie conventionnelle, et vous voyez, on voit très très bien la structure perovskite, qui est un peu, ça, on voit bien le carré du perovskite, et vous voyez aussi qu'il y a des fautes dans les perovskites, des fautes qui, vous voyez mieux que moi, qui courent un peu comme ça, et qui sont répétitifs, qui sont périodiques. Mais alors, on voit bien les atomes, il y a l'or, par exemple, le plomb qui est très très lourd, le fer et l'oxygène. Alors, en fait, trois différentes. Maintenant, quel atome, quel point et quel atome? Eh bien, on switch dans l'autre mode. On a une intensité, comme je vous ai dit, qui est proportionnelle au numéro Z carré, plus ou moins, le N est plus ou moins 2. L'oxygène, c'est 8, fer, 26, mais le plomb est 82. Alors, ce qu'on voit dans l'image ici, ce n'est que les atomes de plomb. En fait, je vais être très très simple, on va être superposé cette image-là sur cette image-là, et on va dire, ah, on a retrouvé le plomb, alors le reste, c'est le fer, et l'oxygène, on met en coordination. Alors, c'est surtout Artyom Abakumov qui a fait ça il y a 6 ans déjà. On vieillit, hein, non de... Mais alors, vous voyez que vous avez des régimes perovskites ici, des deux côtés, mais qui sont reliés par des défauts antiphase, ils sont déphasés, mais où vous avez une coordination différente. Vous avez en fait des hexagones de fer avec deux plombs dedans. Si vous mettez encore des oxygènes, vous avez une image complète, mais ça, je n'ai pas mis ici. Ah oui, je peux faire comme ça ici. Voilà, ça c'est de nouveau un peu illustré ce qu'on peut avoir. On a une source, on a un échantillon focalisé, on collectionne les électrons qui sont distribués de très très loin de l'origine, mais on peut aussi collectionner ceux qui sont proches de l'origine, y inclut l'origine. Et là on appelle ça annular bright field. Là vous avez les atomes lourds, plus les atomes légers. Parce que dans l'autre image, on n'avait pas l'image des oxygènes. Ici, on va avoir l'image des oxygènes. Et je vais vous montrer une autre structure, qui est l'or de fer et bismuth, avec deux dans le annular dark field et l'annular bright field. Ici, vous avez les atomes lourds. Par exemple, le plomb et le bismuth. De l'autre côté, là, vous avez le plomb et le bismuth, mais aussi l'oxygène. On combine les différentes techniques pour avoir l'information qu'on veut. C'est-à-dire, vous avez votre problème, et en fonction de votre problème, vous allez choisir dans quel mode vous travaillez. Soyez le bienvenu, monsieur. Je ne vais plus recommencer dès le début. Hein. Voilà, pardon. Alors, je vais illustrer ça pour... Un truc qui est, de point de vue technologique, très important, c'est l'oxyde de cérium, qui s'utilise assez souvent dans l'industrie semi-conducteur. on fait une image et on voit bien que c'est une nanoparticule. Vous voyez ici 2 nanomètres sur une échelle dont on travaille. La magnification que vous voyez ici sur le tableau, c'est de l'ordre de 100 millions de fois, plus ou moins. Alors, vous voyez, dans cette image, ça c'est encore un agrandissement, vous voyez, en Alan Brightfield, les atomes de cérium, mais aussi les atomes d'oxygène, qui sont très très faibles ici, mais vous voyez. Alors, si vous voyez, ça c'est les plans 1-1-1. Dans les plans 1-1-1, vous voyez très très bien que les oxygènes terminent chaque fois. Ce n'est pas une termination de cérium, mais d'oxygène à la surface, dans le vide, hein, pas oublier dans le vide. Après, on va prendre l'oxyde de cérium pour montrer qu'exactement ici, vous n'avez pas, en général, vous avez cérium 4+. On va montrer qu'à la surface, on a cérium 3+, atome par atome. Alors, on a des images. On peut dire, ça c'est un atome lourd, ça c'est un atome léger, mais comment déterminer la composition ? Eh bien, pour déterminer la composition, il y a différentes techniques. Ça, c'est un microscope théorique, je dirais. Vous avez des électrons qui arrivent entre 60 maintenant et 300 kV. Ça, c'est le régime. Mais ça, ce n'est pas important. Le 60 kV, on l'utilise, par exemple, pour des matériaux comme le carbone, le graphène, les nanotubes et tout ça, parce qu'à plus haut voltage, ils vont être détruits. Alors, c'est pour ça qu'on diminue le voltage. Pour certaines, pour les alliages, par exemple, il n'y a pas de problème, on travaille à 300 kV. La résolution augmente avec plus haut voltage. À 300 kV, on a une résolution dans le microscope de 0,5 angstrom. À 60 kV, il nous reste encore 1,2 angstrom. Mais qui est suffisant quand même. Alors, on a cet faisceau, il y a l'échantillon, eh bien, il a le faisceau central. Il faut dire, pour la microscopie, il faut avoir un échantillon très mince. L'épaisseur maximale, c'est de l'ordre moins d'un micron, même pour les structures très légères. Je préfère avoir 100 nanomètres. Et de préférence, pour la haute résolution, même 20 nanomètres. Alors, vous vous imaginez qu'un cheveu qui a un diamètre de 80 microns, ça veut dire qu'il faut couper votre cheveu en 1000 pièces pour avoir une épaisseur qui me plaît. Alors, c'est ça le problème que vous avez. Vous avez un échantillon, vous mettez l'échantillon au microscopie, ça vous dit, prenez mes images, la première chose qu'il faut faire, c'est de préparer un échantillon qui est tellement mince, qui n'est pas évident, mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais je peux vous expliquer. Alors, vous avez un échantillon qui est très mince. Vous avez un faisceau transmis, vous avez le faisceau diffracté. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une interaction entre un faisceau et un échantillon. C'est un process mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des électrons secondaires, il y a des électrons qui sont rediffusés, il y a des électrons OG, il y a des rayons X, il y a de la lumière, il y a des électrons qui ont perdu de l'énergie inélastiquement. Et chaque de ces faisceaux porte de l'information de la région qui a été illuminée. Alors, je vous ai dit qu'on peut faire un faisceau qui a un diamètre de 1 angstrom, c'est-à-dire atome par atome. C'est-à-dire, si on veut, on peut analyser les rayons X ou les électrons inélastiques à une échelle atomique. Ça s'appelle EELS, Electron Energy Loss Spectroscopy, et ça s'appelle EDX, Electron Dispersion of X-rays. C'est les rayons X qu'on va investiguer à une échelle atomique. Voilà. Sur l'EELS, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le faisceau central qui est très très fort. Alors, le nombre d'électrons est exponentiellement, mais il y a certains pics qui sont caractéristiques, par exemple, pour le bore et pour la nitrure. Alors, c'est la nitrure de bore, il y a deux pics qui sont significants, et en mesurant l'intensité de ces pics, on peut déterminer la composition. C'est-à-dire, il y a différentes sortes d'informations. Le zéroloss qui est très fort, alors il y a la région des plasmons, et alors ici, il y a une décroissance exponentielle. Si j'agrandis ça, la décroissance exponentielle, ici, vous avez les pics caractéristiques qui contiennent de l'information sur l'élément. Alors on peut faire une quantification des éléments, même des éléments légers. Alors, dans la région des plasmons, on a l'information de la structure électronique et même de l'information optique. La forme exacte, je vais venir plus tard, pardon, je vais juste illustrer la quantification des éléments. Vous avez par exemple ici une image en microscopie de LCMO, c'est-à-dire lanthane, calcium, manganèse, oxygène, sur bismuth, barium, titan et oxygène. Alors, on fait une image dans l'élément lanthane, et vous voyez très très bien que ça, le lanthane se trouve là. Alors, ça, c'est le lanthane. Quelque chose que vous ne voyez pas dans l'image directe. Mais le lanthane se met là, le calcium aussi, et le manganèse aussi. Alors, ça, c'est bien le LCMO. Par contre, les petits ici, c'est du barium et du titane. Là, on peut être dire, écoute, il n'y a pas de diffusion de l'un dans l'autre. Oui, mais c'est quoi comme résolution? Ici, vous avez 50 nanomètres, ça veut dire même l'interface ici. Est-ce que c'est vraiment pas de diffusion ou pas? Eh bien, je vais vous montrer jusqu'à quel coin on peut aller. Dans un autre exemple, c'est le BTO, LCMO. Vous voyez ici l'interface. Là, vous voyez très, très bien, il y a à une échelle atomique. Et si vous avez le barium et le titan, et là, vous avez le manganèse et le lanthane, il n'y a vraiment qu'à l'échelle atomique, il n'y a pas d'interdiffusion. Ça, c'est très, très clair. Ça, c'est de l'ordre de 4 angstroms. Il y a peut-être une lame dont on dit « Ah, je ne suis pas tellement certain ». Mais pour le reste, on peut dire, on peut caractériser la structure, la composition d'un matériel à une échelle atomique, sans problème. Enfin, sans problème, je ne dirais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la valence ou la connexion entre les atomes? Eh bien, là, il faut regarder, par exemple, la valence ou l'arrangement, si vous avez du carbone, ça peut être ou bien du diamant, ou bien du graphène, du graphite. Comment est-ce qu'on peut séparer ça? Eh bien, la réponse est dans la structure fine ou la taille du pic. Par exemple, là, de la taille, on peut déterminer la structure fine, le bonding. C'est quoi le bonding? Connexion? La liaison, pardon. La liaison et la valence des atomes. Et je vais vous donner, parce que ça, je trouve vraiment très important, un exemple qui était connu. C'est le Mn3 ou 4. Eh bien, dans le Mn3 ou 4, il y a du manganèse 2+, et il y a du manganèse 3+. Et si vous regardez cette structure le long d'un certain axe, l'axe 1, 0, 0, vous avez une image comme celle-là. Et là, j'ai mis le schéma. Le manganèse 2+, c'est en vert, le manganèse 3+, c'est en rouge. Pour la structure idéale. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends mon faisceau, je focalise sur un atome et je me déplace. Si je me mets sur un atome rouge, j'ai une courbe comme celle-là, la rouge. Si je me mets sur un vert, comme ici, j'ai une courbe qui est déplacée un petit peu et qui a une autre forme. Et là, je sais que la rouge, c'est le 3+, le vert, c'est le 2+. Alors, je peux faire la différence. Vous voyez? Et ça, c'est avec le nouveau microscope, travaillé à 120 kV, double corrigé, avec un monochromateur. Ça veut dire que les électrons ont toujours la même énergie. Alors, je vais vous montrer les résultats très rudes. C'est un travail d'il y a 3 ans maintenant. On a une image, vous voyez, ici, pour le 3+, et le 2+. Vous voyez que là, il fait blanc, là, il fait noir. Là, c'est filtré, ça, c'est non filtré. Ça veut dire que vous voyez vraiment les pixels. Mais vous voyez que c'est possible faire en coloré, le rouge, le 3+, et le 2+. C'est vraiment très, très convaincant. On peut faire la même chose pour des structures qui sont moins connues ou qui sont plus intéressantes point de vue application. C'est-à-dire, je reviens au cérium, d'oxyde de cérium, des nanoparticules. Au centre, c'est bien du cérium 4+, mais à la surface, on expecte avoir du 3+ et du 4+. Est-ce qu'on peut visualiser ça? Eh bien, oui, parce que si vous prenez, par exemple, des nanoparticules comme ici, avec une différente taille, une taille de 4 nanomètres, de 30 nanomètres et de 60 nanomètres, 60 nanomètres, c'est un grand particule dont le centre est plus important, alors le 4+ sera plus important. Alors, dans ça, c'est le 4+, ça, c'est le 3+ qui arrive là. Si vous voyez, par exemple, le vert qui arrive ici, eh ben, ça correspond au 4+. Le petit, qui sont presque complètement 3+, vous voyez très, très bien qu'ils correspondent au 3+. Le 3+, qui a un pré-pic, le 4+, qui ne l'a pas. Et on peut faire, sur cette image-là, on peut le faire, par exemple, pour un nanoparticule de l'ordre ici, de 10-20 nanomètres, quelque chose comme ça. On fait une image dans le 4+, on fait une image dans le 3+, on fait les deux ensemble, et vous voyez très très bien que la surface, le 3+, est vraiment présent. Vous avez une sorte de transition du cérium 4+, au centre, au cérium 3+, à la surface. Oui, mais c'est vraiment à une échelle atomique ou pas? Ben, on peut faire ça, vous voyez. Ici, la surface 1 à 1, comme je vous ai montré. Et si on fait les deux, 4+, 3+, on les met ensemble, vous voyez que ici, dans cette particule, il y a une seule rangée qui est transformée de 4+ en 3+. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, c'est un mélange de 3+ et 4+ là-bas. Alors, on peut même aller plus loin, je dirais. Ça veut dire, vous avez une structure qui est plus complexe. Il y a de l'or, strontium, bismuth, fer, oxygène. Il y a des fers dans des cages octaédriques ou des cages pentagonales. Est-ce qu'on peut voir la différence? Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, tout simplement, on prend une image. Il y a le fer qui est mélangé. On fait une image, on retrouve tous les fers, voilà. Ça, c'est l'image avec tous les atomes ensemble. Ça, c'est l'image qu'avec le fer. Alors là, se trouve le fer. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais me focaliser sur ce fer-là et ce fer-là. Eh bien, ce fer-là, il donne le rouge, il donne cette courbe rouge. Celui-là, il donne le bleu. Alors, le pré-pic qui est présent, qui est typiquement pour une coordination octaédrale, octaédrique. Par contre, là où il n'y en a pas de pré-pic, c'est une coordination 5. On peut mettre le tout ensemble de nouveau et on fait l'image des fers. Ça, sont tous les fers. Alors, les fers en octaédrique sont en blanc ici et ici, ça reste en noir parce que c'est des fers en pentagonal. On peut vraiment dire, écoute, même sur une structure qu'on ne connaît pas, il y a le fer en pentagonal, on en discutait l'autre fois, et en octaédrique, et ça revient à la même chose. Ça passe vite. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire ça sur n'importe quel matériel? Certainement pas. Il y a des limitations. La limitation, c'est ce qu'on appelle, il faut être capable d'avoir un échantillon assez mince. On peut broyer, comme M. Tarascon a montré, on peut le laminer, on peut faire différentes façons de préparation pour avoir un échantillon très mince. Autre chose, c'est des matériaux vivants, on ne peut pas y mettre, parce que c'est le vide dans le microscope. Alors, des matériaux qui sont sensibles à la radiation, on ne peut pas non plus y mettre. Ça veut dire, par exemple, des biomatériaux qui sont sensibles à la radiation, des Metal Organic Frameworks, MOFs, des zéolithes, ils sont très sensibles aux faisceaux. Aussi, les matériaux basés lithium sont très sensibles. On ne peut pas non plus y mettre des matériaux qui ne sont pas résistants au vide. Par exemple, des matériaux qui tiennent de l'eau. Parce que de l'eau, ça va évaporer et la structure va collapser, va avoir une collapse de la structure. Alors, il faut être, on est limité, par exemple. Alors, on peut se demander, les matériaux qu'on utilise dans les batteries, les matériaux d'énergie, est-ce qu'ils sont sensibles au microscope? Oui, ils sont très sensibles. C'est pour ça que, jusqu'à quelques années, il n'y avait pas trop de travail en microscope électronique parce qu'on disait, ah bon, le lithium, mais ça va quand même. Il ne faut pas faire un effort. Mais, le dernier temps, on a été très prudent, très, très prudent, c'est-à-dire, on prépare l'échantillon dans... Glove box, c'est quoi? Boîte de
sèche.
Boîte de quoi?
Boîte à gants.
Oui, oui, boîte à gants, voilà. Dans la boîte à gants, c'est ça que je comprends. Hein. Pardon. Alors, on prépare ça. Alors, on a un transfert, un porte-échantillon pour mettre l'échantillon. En fait, on a un porte-échantillon et là, il y a une grille qui n'a que 3 mm. Et sur ces 3 mm, il y a un couvert de carbone très, très fin. Et c'est exactement les petites particules qu'on met là-dessus qu'on va regarder dans le microscope. Alors, avec ce porte-échantillon qui est... il n'y a pas d'air, on ne peut pas d'air qui peut y entrer, on met dans le microscope. En fait, ça, c'est le microscope qui est à l'intérieur de ce frigo que je vais vous montrer tantôt. Alors, là, l'échantillon entre et là, vous restez dans le vide. Alors, nulle part, votre échantillon vient en contact avec l'oxygène ou avec l'air. Ça, c'est très important. Alors, en plus, et ça, c'est des travaux qu'on a fait en collaboration avec le professeur Tarascon durant certaines années, des trucs qui sont très, très sensibles au microscope, mais il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle low-dose diffraction. On prend la diffraction comme on prend la diffraction des X. Mais les X, ils prennent une diffraction de tout l'ensemble. Ici, on prend une diffraction, c'est tous des, en fait, des monocristaux très très, mais très très petits, mais il faut être très vite. Ça veut dire, au bout d'une seconde, ça se peut que tout a disparu. Tout est dégradé. Il faut être très très vite, mais finalement, on a réussi à déterminer toutes sortes de structures de très complexes basées sur lithium. Une autre technique, c'est on peut, par exemple, avoir une orientation 001, qui est une orientation de base. On peut tilter l'échantillon jusqu'à ce qu'il y ait une autre zone qui est très importante, 1-1 ou 1-2, et tout ça, on peut faire ça dans le microscope. Qu'on peut faire aussi, ça c'est direction, une collection de différentes zones importantes, comme ça, mais on peut aussi faire une sorte de scanning de tous les degrés, n'importe quoi. Et reconstruire, faire avoir un programme pour reconstruire le réseau réciproque de cet échantillon. Et du réseau réciproque, on revient alors au réseau direct. Et ça, on a appliqué, ça c'est tout nouveau, du travail qu'on n'a pas encore, ça c'est une zone ici, mais on a été capable à reconstruire toute cette structure-là, en avoir 172 réflexions. On peut déterminer le groupe spatial. Les paramètres de la maille, on les détermine des rayons X, mais on peut arriver avec les poudres et les électrons à la même structure, même pour des matériaux qui sont très sensibles aux faisceaux électroniques. Là, le dernier truc que je vais vous montrer, sur les, c'est l'origine. On a une structure laminaire contenant du lithium et des métaux. Il va être très simple. La structure pristine, vous avez ici les métaux séparés par une couche de lithium. Ça, c'est le pristine. Alors, vous allez éliminer le lithium, charge, discharge, et tous les lithiums sont disparus, mais il y a la possibilité que les atomes des métaux vont bouger et vont se mettre dans des cages octaédriques, pardon, dans ces cages-là. Est-ce qu'on peut voir ça dans le microscope? On dirait non, ça ne va pas. Mais quand même, si on est très très prudent et quand on s'appelle Abakumov, ça marche. Voilà. Pristine, charge, décharge. Vous voyez? Le décharge et le pristine sont les mêmes. Mais en chargeant, vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui se passent entre ceux-là. Par exemple, vous avez ici trois petites photos qui sont prises là. Vous voyez, ils sont tournés. Mais bon, vous voyez, il y a toutes sortes d'intermédiaires. Et si vous mettez ici, par exemple, vous voyez les deux points qui sont séparés de 1,4 angstrom. Alors, deux métaux. Ici, vous avez le lithium, deux métaux. Ça vous fait métal 1, métal 2, lithium 1, 2, lithium et tout ça. Bien organisé. Ici, c'est le chaos. Il y a de tout. On peut voir un métal dans une cage octaédrique ou un métal dans une cage tétraédrique ou sur une position de lithium en jaune, bleu ou vert. Si on va voir ici, vous voyez les bleus, surtout octaédriques, et peu de tétraédriques. Là, vous allez aller à l'extrême, vous avez des métaux sur des positions jaunes, des métaux, par exemple, sur des positions lithium. On peut avoir n'importe quoi, c'est-à-dire ça bouge. Et l'origine du malfonctionnement du matériel, c'est du fait que certains atomes métaux vont rester entre les cages tétraédriques ou octaédriques. Si on fait ça, pas deux fois, mais 10 fois, mais 1000 fois, c'est ça qui va se passer. Là, c'est un autre matériau qui est un peu différent, mais qui est en fait la même. Vous voyez ici, par exemple, une cage tétraédrique où il y a un métal qui est capturé là-dedans. Ici, vous en avez un métal qui est capturé octaédrique sur une structure. Et vous voyez, il faut faire attention parce qu'à la surface, vous avez la structure NaCl. Et ici, vous avez la structure laminaire. Ici, vous avez la structure désordonnée à la surface. Ça, c'est une autre. On peut avoir des dégâts d'irradiation, mais on peut aussi avoir l'effet d'une couche mince. Quand ça va être trop mince, là, vous avez encore des transformations qui peuvent se passer. Voilà. Alors, si je veux voir, par exemple, des petits clusters, certains atomes, quand vous mettez, par exemple, 20 atomes, une nanoparticule de 20 atomes sur un support de carbone, qu'est-ce qui se passe? Rien, apparemment. Voilà. Sous le faisceau, vous voyez ce qui se passe? C'est pas stable. Parce qu'ils ont tant d'énergie, vous mettez tant d'énergie dans votre électron qu'il permet que... Ce sont des atomes individuels qui sautent l'un dans l'autre. Et là, on se dit, on peut rien faire. Mais on se réalise, quand on prend 1000 photos comme ça, que certaines configurations vont chaque fois revenir. Vous avez des configurations, plusieurs de ces configurations des atomes, et on se réalise qu'en fait, ici, la plupart sont de ceux-là, c'est une configuration planaire d'atomes. Et l'autre, c'est une configuration 3D, qui sont plus bulk. Alors, tout ce qu'on voit, c'est que ça passe de l'un à l'autre intermédiaire et ça saute tchac, comme ça. Quand on analyse les photos en détail, on recouvre, on a fait des calculs après, et ça, c'est des structures qu'on avait calculées. Et il y a une transformation, il n'y a presque pas d'énergie nécessaire pour transformer une planaire en une 3D configuration. Par exemple, en bleu, ça fait 3 atomes superposés. En vert, c'est 1 atome seulement. C'est ce que l'intensité nous apprend. Alors, conclusion, intermédiaire, c'est que, qu'est-ce qu'on peut dire sur déplacement, composition et valence, on peut le quantifier maintenant jusqu'à une échelle atomique, à condition, bien sûr, que votre échantillon est stable sous le faisceau. Mais alors, n'est pas terminé, parce que en 2D, ce n'est qu'une projection, je vous ai dit. Quand je prends une photo de vous, je vois vos faces, mais je ne sais rien d'autre. Par exemple, j'ai mon crayon ici. Si je regarde mon crayon comme ça, vous pouvez penser que c'est quelque chose qui est sphérique. Que je tourne, c'est beaucoup plus long. C'est plutôt un saucisson. Alors, je peux faire ça et ça peut être très utile. Par exemple, vous avez une projection comme ça et vous dites, c'est quoi ? En réalité, en 3D, en fait, c'est ça. Si cette configuration, on projette, on a cette image. On peut se tromper. Voilà. Voilà, c'est-à-dire une projection en 2D d'une, peut être très, très misleading. Voilà. Alors, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une photo et on va se demander c'est quoi en 3D. Je vais vous montrer tout simplement ce qu'on va faire. On va prendre des photos sous différentes orientations. Par exemple, ici, on va prendre des photos de ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va reconstruire l'initiale. Voilà, tac, tac, tac. Et finalement, on retrouve notre logo du labo qu'on a fait. Voilà, on peut faire comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un petit vidéo qui, j'espère, qu'il joue. Ouais. Voilà, on a sur une structure atomique, à une échelle atomique, qui forme des nanoparticules, en fait, dont on veut déterminer la forme. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met sur une grille du microscope. Voilà, ça, c'est un porte-échantillon. Ça, c'est la grille de 3 mm. On tourne des deux côtés, on prend des photos. On en prend des centaines, en fait. Et comme ça, on a toute la série projetée. Et voilà. À partir de ces photos projetées, on retrouve en fait la forme en 3D. Ça, c'est les différentes projections qu'on a prises. Voilà. Ça, c'est de la façon dont on travaille. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, par exemple ? Vous avez une distribution des nanoparticules de TiO2 dans une matrice zéolite. Ça, c'est en projection. Et ça, c'est bien les nanoparticules. Mais en projection, je ne sais pas si les nanoparticules se trouvent sur la surface ou à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut faire une analyse en 3D. Là, vous voyez qu'il y en a certains, les grands, sont à la surface, mais il y en a aussi qui sont à l'intérieur, ici. Et voilà, ça, c'est les nanoparticules, sauf sans la matrice. Et vous voyez très, très bien qu'ils sont distribués en 3D et pas seulement en 2D sur la surface. Alors ça, c'est vraiment très utile, c'est des nanoparticules de l'ordre de quelques nanomètres. Mais alors, l'idée est, ça c'est un autre exemple que je vais vous montrer, ça c'est une combinaison de nanoparticules qui forment un réseau honeycomb. Là, on va en différentes hauteurs. Voilà. Faire la même chose, tac, tac, tac. Vous voyez qu'ils ne sont pas vraiment dans un plan, mais dans deux plans différents, les nanoparticules. Alors, est-ce qu'on peut le faire en 3D, à une échelle atomique ? On a toujours dit non, ça ne va pas marcher, mais si ça n'aurait pas marché, je n'aurais pas parlé là-dessus. Voilà, c'est ça ce qu'on a fait il y a 4 ans maintenant. On a pris quelques photos. Et ça, c'est, qu'est-ce que ça c'est ? Ça, c'est une matrice en aluminium, et il y avait des nanoparticules de l'argent dedans. Alors, on a fait une photo en champ sombre Analog Dark Field. Ça veut dire, ce qui est blanc, c'est des atomes lourds, c'est-à-dire c'est des nanoparticules d'argent. Alors ça, c'est l'argent, et ça, c'est l'aluminium. Ils se trouvent sur un réseau cubique face centré. Alors ça, c'est une nanoparticule comme ça. On l'a fait une image dans une zone 1-0-1, mais après, on a fait aussi une zone 0-1-0. Et tournée de 90 degrés, 0-1-0, 1-0-0, on a fait différentes orientations. Alors, chaque fois, on a une image à une échelle atomique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, écoute, l'intensité ici, ça dépend du nombre d'atomes dedans. Alors, on a fait, je ne vais pas aller dans les détails, c'est une nouvelle statistique qu'on a utilisée. Le rouge, par exemple, c'est là où vous avez 8, 9 ou 10 atomes d'argent. Le bleu, il y en a un ou deux. Et comme ça, on a compté le nombre d'atomes. Alors, on arrivait à 789 atomes. On a fait l'autre sur la zone 1-0-0 et d'autres zones aussi. Là, on arrive, par exemple, à 791. C'est-à-dire qu'il y a une différence de deux atomes parce qu'il y a toujours une sorte d'incertitude. Est-ce que ça appartient encore à l'un ou à l'autre ? Mais bon, on a compté le nombre d'atomes dans une échelle. On a reconstruit en trois dimensions. Et en trois dimensions, ça, c'est encore une image sur différentes versions. Alors, on arrive, et je ne sais pas si ça marche, ça ne marchait pas tantôt. Voilà, ça c'est la nanoparticule. Pas un nanoparticule, c'est la nanoparticule avec les 790 atomes. Exactement. Et comme ça, on peut très très bien voir les surfaces, les facettes de cette nanoparticule. Et maintenant, on peut déterminer presque de toutes les nanoparticules la structure exacte en trois dimensions. Et ça, c'est vraiment très innovatif. On peut faire ça pour un mono-alliage, parce que ça, c'était que... On était limité, parce que d'abord, c'est l'argent. Il y avait un élément, parce que pour le reste, c'était de l'aluminium. Et deuxième chose, on disait, ah, tout se trouve sur un cubique face centré. Déjà ici, on va avoir des nanoparticules qui contiennent du plomb et du cadmium. Et là, vous voyez très très bien le centre du plomb et autour du cadmium. Et là, par exemple, vous voyez le centre qui est le plomb et là le cadmium. Mais vous allez voir, s'il s'arrête, que la résolution n'est pas tellement excellente. On voit bien les atomes individuels, mais vous allez voir, il s'arrête. Non, il ne veut pas s'arrêter. Pas pour continuer. Ah oui, non, ça ne s'arrête pas. Mais bon, la résolution n'est pas... Parce que qu'est-ce qu'il y a ? Le plomb, sélénium, les paramètres de la maille sont un peu différents. Alors, il y a une sorte de tension, il y a une sorte de déformation là-dedans. Et ça, on n'a pas pris en compte. On va prendre ça en compte maintenant, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on a utilisé, en fait, de la connaissance qu'on savait. Les atomes se trouvent sur un certain réseau, cubique face centrée, hexagonale, perovskite, n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement d'atomes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment ça marche ? C'est-à-dire que vous avez une structure pareille dont on peut déterminer sans problème. Qu'est-ce que ça c'est ? Qu'est-ce qu'on a ? Une structure en projection. Qu'est-ce qu'on dit ? On le projette de ce côté-là. Ah, ça reste, tac. Dans certaines directions, on a toujours des points discrets. Et là, on dit, du moment que il n'y a pas de... Du moment que il n'y a rien qui rencontre, on n'a pas d'atome, l'autre, on a un atome, et alors, comme ça, on peut déterminer la structure de la taille. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, je crois, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait plus récemment ? C'est, ah, vous avez de l'or, mais on n'est plus certain. On laisse tomber maintenant qu'il se trouve sur un cubique face centré. C'est-à-dire, s'il dévie du cubique face centré, on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? on projette. Voilà, donc la zone 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 et tout ça. Et on laisse la position d'atome libre. Et on va faire un nouveau traitement statistique, par exemple ici. Et qu'est-ce que vous voyez? En bleu et en rouge, une compression, une dilatation des atomes, déviation des positions idéales du cubique face centrée. Donc vous voyez que, par exemple, il y a ici une dilatation autour d'une sorte de kink. Ici, à la surface aussi, d'une nanoparticule, il y a une dilatation. Par contre, ici, il y a certains points où il y a une compression dans la structure. Et on peut déterminer ça avec une précision de picomètre. Ça veut dire facilement une dixième d'angström de déplacement d'atomes, on peut visualiser en 3D. Finalement, je vais finir avec vous dire que l'EDX, on n'en a pas parlé, l'analyse de la composition en analyse des rayons X, on a un échantillon et on a quatre détecteurs. Ça, c'est nouveau. Avant, on n'avait qu'un détecteur. Maintenant, on a quatre détecteurs qui sont très, très forts. Et on analyse les résultats des quatre détecteurs. Ça veut dire qu'il faut moins de temps pour analyser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on a une situation où avec l'or et l'argent ensemble. Alors, en traitement galvanique, mais je ne veux pas aller dans les détails, on a un changement d'un cube à un octaèdre. En plus, il y a des trous à l'intérieur. Ça, c'est l'image en microscopie. Ça, c'est la construction en 3D avec l'idéal, comme ça. Avec là. Mais on va combiner ça maintenant avec la composition. On va mesurer la composition ici, au début et à la fin. Et vous voyez très bien qu'au début, il y a l'or qui se trouve à l'extérieur et l'argent qui se trouve à l'intérieur. Et à la fin, il y a l'or qui se trouve à l'intérieur et l'argent à l'extérieur. En plus de transformer d'un cubique à un octaèdre, il y a une transformation de la composition. Alors, c'est ce qu'on va dire ici, de là à là, un remplacement galvanique. Vous avez l'or à l'extérieur ici. Là, il y a encore un mélange. Et finalement, il y a l'argent à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose d'assez récent et d'assez important. Je vais finir par quelque chose qui est encore plus complexe. C'est déterminer en 3D la valence. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Je vous ai dit, pour l'oxyde de cérium, il y a une différence entre le 3+ et le D+. Mais alors, on peut se demander, okay, écoute, à la surface, il y a la transition de cérium 4+ à cérium 3+. Est-ce que c'est le même, par exemple, sur les surfaces 1-1-0 ou les surfaces 1-0, pardon, 1-1-1 ou 1-0-0? Eh bien, on va utiliser ça pour des octaèdres parfaits et pour un truncated octaédon, tronqué, non, coupé, voilà. Je vais vous, tout simplement vous montrer en 3D ce que ça donne. Non. Pardon. Voilà. Ça, vous allez voir, j'espère. Voilà. Ici, à la surface, vous avez encore du 4+, à l'extérieur, vous avez du 3+. Et là, c'est une coupe. Et vous voyez très, très bien que le rouge se trouve à la surface. Alors, en 1-0-0, vous avez très peu de transformation. Par contre, pour les plans 1-1-1 qui sont là, vous avez toujours le 3+, qui est plus fort que sur le 1-0-0. Alors, pour finir, je veux dire, la microscopie a évolué. Avant, c'était une sorte de grande lentille pour regarder des trucs. Il y a toujours des gens qui viennent chez nous. Écoute, on a un échantillon ici. Est-ce que je peux avoir des photos? Alors, je réponds tout simplement, nous, on n'est pas photographes. On est des microscopistes, on est des scientifiques. Alors, ça n'a plus une grande magnification, c'est plutôt une machinerie analytique en chimie d'état solide, physique d'état solide, sciences des matériaux. La résolution en composition, en position et en valence est une échelle atomique. En 3D, c'est routine jusqu'à 2 nanomètres, mais possible jusqu'à l'échelle atomique. Mais n'oubliez pas que tout ça est limité assez souvent par votre échantillon. Surtout, par exemple, si vous travaillez sur des échantillons avec le lithium et tout ça, ça montre plus de problèmes. Alors, je reste à collaborer, à remercier mes collaborateurs. C'est surtout Artyom Abakumov, Stuart, Sandra pour la théorie et Yo pour l'IELTS. Collaboration avec les nanoparticules avec Vigo en Espagne, Collège de France, c'est quelque part ici, et Utrecht en Hollande. Le support vient de l'ERC surtout, un contrat européen de moi, de Jo Verbeek et de Sarah sur différents trucs. Et finalement, je veux vous dire, si vous voulez plus d'informations là-dessus, il y a un article de review, un Advanced Microscopy for Advanced Materials, qui a paru il y a 3 ans, et il y a aussi un livre Handbook of Nanoscopy en 2 volumes. Volume 1 donne toutes les techniques, volume 2 donne votre échantillon. Par exemple, battery materials, vous savez. Quelle technique est-ce que vous donne, qu'est-ce qui vous donne l'information là-dessus? Voilà. Ça, c'est. Je crois tout ce que je veux dire. Voilà, merci de votre attention.
Merci pour cet exposé qui nous fait rêver.
Merci.
Est-ce que vous avez des questions?
Comment? Oui, ça, on peut faire sur les deux. Ouais. Voilà, même la charge ponctuelle. Si vous avez un non-conducteur, ce qu'on fait, c'est on fait une sorte de... on va déposer une couche de carbone là-dessus pour éviter que ça soit chargé. Parce qu'autrement, on se trouve en problème. Ouais. Ça, c'est une technique à part.
Centré sur la même particule pendant que vous tournez.
Oui, monsieur, c'est très difficile. C'est pour ça que très peu de gens le font.
D'accord.
Okay. Oui. Mais on a des techniques. Avec des microscopes avancés, on a la possibilité de garder là-dessus. Oui. En fait, c'est très important de rester sur le même. Ouais.
Pour des études comme ça, bon, tu vois, pour des particules d'or et tout ça, mais quel est le temps qu'il faut pour faire toutes ces manies?
Ben, ça dépend aussi du microscopiste. Il y en a certains qui n'apprennent jamais, mais il faut dire, prendre les images, c'est quand même quelques heures en tout, pour avoir l'image idéale. En principe, hein, c'est pas long. Vous prenez l'image, tac, vous tiltez, vous arrivez à une autre zone sans problème. Le problème, c'est que, par exemple, si vous tiltez, eh ben, il n'y a pas de stabilité pour prendre la photo. Il faut attendre jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Ben, bouger, ça veut dire quelques nanomètres. Il faut une stabilité de, disons, moins de 3 angstroms par minute pour avoir ça. C'est-à-dire, c'est incroyable.
Je vais vous demander comment est-ce que vous êtes certain que votre échantillon est représentatif.
Très bonne question, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on travaille ensemble avec d'autres cristallographes, par exemple. On a des données, des rayons X et tout ça. Surtout, par exemple, pour des matériaux qui contiennent de l'hydrogène. Ça se peut bien que quand vous regardez, et même mettez dans le microscope et vous regardez sur votre écran, que l'hydrogène s'est déjà dépassé. Même chose pour le lithium. Il y a certains gens qui disent « Ah, on a vu le lithium et tout ça, mais des matériaux, le lithium s'en va facilement. Il faut faire très attention. » C'est vraiment...
Quel type de procédure vous avez pour...
Les types de procédures, c'est, par exemple, on prend une photo très, très vite. Et si après, par exemple, on met le faisceau, pour certains qui sont stables, 5 minutes plus tard, on prend la photo. Si on a toujours la même photo, on peut faire confiance, plus ou moins. S'il y a quelque chose qui a changé, alors là, on peut se demander des questions sur la première photo. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre, par exemple, plusieurs photos au bout de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Et aussi, on voit une sorte de dégénération. On peut revenir au temps zéro. En faire une sorte de... on peut revenir en temps comme on fait avec le Big Bang, en fait. Comment ?
Initialisation ?
Oui, comme ça. Pour... Comment ?
Une référence.
Oui, on peut faire... Oui, voilà, on peut revenir et on peut s'imaginer qu'il y avait... Après 0 seconde, c'est-à-dire...
Extrapolation.
Voilà, c'est ça que je cherchais. Une extrapolation jusqu'à temps zéro. Ouais.
Le problème de la fabrication de l'échantillon...
Oui, ça aussi pose des problèmes. Ça aussi pose des problèmes, parce que comment est-ce qu'on produit un échantillon par... Si on a des nanoparticules, il n'y a pas de problème. On les dépose. Mais quand vous avez, par exemple, certainement, on arrive avec un truc pareil, on dit, ah, écoute... Investiguez-moi la surface ici. Alors, il faut découper. Et on fait ça assez souvent avec, par exemple, un faisceau d'argon. On a un échantillon, par exemple, qui est 3 mm, qui a une épaisseur, dirons, de quelques microns. Qu'est-ce qu'on fait ? On élimine, ça devient de plus en plus mince. Et à un certain moment, on a un petit trou ici. Et c'est les bords de ce petit trou qui sont transparents. Et c'est ça qu'on va regarder. Autre chose, c'est qu'on va découper une certaine petite coupure ici avec le fib. Là, on fait une lame d'une épaisseur de 100 nanomètres. Mais il faut faire très attention, parce que ça, c'est avec le gallium qu'on va faire intervenir le gallium avec les éléments. Il faut faire très attention. Et il y a plein de publications. Je peux faire des références sur des publications dont on a fait des erreurs là-dessus. Faire très attention. C'est question d'habitude, question de pratique, oui. Ouais.
Est-ce que vous utilisez les caméras ultra rapides justement pour faire
en sorte que... On utilise des caméras CCD avec une vitesse de plus en plus vite. Maintenant, on discute pour avoir une caméra qu'on appelle Single Electron Detector, qu'on détecte finalement chaque électron qui a été diffracté ou chaque électron qui a été... Mais c'est ce qui est très important pour la résolution, c'est ce qu'on appelle Signal to Noise. C'est quoi, français ? Signal sur bruit. Hein, c'est ça qui est important pour avoir certains résultats. Alors, avec le moindre signal sur bruit, il faut quand même reconstruire la réalité. Oui, on va vers là. Et la qualité des caméras augmente chaque année, mais les prix augmentent aussi, c'est ça le problème. Il faut se réaliser, une caméra comme ça dont je vous parle, c'est 700 000 euros pour la caméra seulement.
OK, merci Stéphane.